7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, anticapitaliste et candidat à l'élection présidentielle.
Eh oui, bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On vous a découvert il y a quelques années comme ouvrier et porte-parole de l'usine Ford de Blanquefort. Vous avez créé la surprise aux dernières municipales. Votre liste a fait près de 10% des voix. Vous avez d'ailleurs été élu conseiller municipal à Bordeaux. Et vous avez été candidat donc pour le NPA à la présidentielle en 2012. Et en 2017, vous rempilez pour 2022, jamais 203, c'est ça?
C'était pas prévu, effectivement, mais le problème qu'on a, c'est les parrainages. Ça a toujours été notre problème, en fait, hein, à obtenir 500 signatures d'élus, notamment des maires dans les petites communes. Et comme c'est une mission très compliquée, on s'était dit encore cette année que ce serait moins compliqué avec un visage déjà connu, déjà installé. Et puis ça permettait aussi de mieux expliquer notre légitimité, enfin la présence dans cette campagne électorale avec déjà un visage connu, quoi. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, l'organisation a décidé que ce serait moi à nouveau, quoi.
Et alors, on en est où des parrainages?
Les parrainages, on en est exactement à 168 promesses. Hein. Ce sont des promesses qu'on récolte aujourd'hui, donc aujourd'hui hier matin. Et en fait, on continue jusqu'au 4 mars. Je crois que c'est la date limite du Conseil constitutionnel.
Parce que c'est ce que vous faites principalement, en fait. Mais vous prenez votre voiture. Vous m'avez expliqué que c'est les principales dépenses aujourd'hui de votre campagne, c'est des dépenses de carburant pour aller voir les maires et les convaincre, en fait. Mais... Et vous me dites, j'en ai un peu marre de mendier.
Ouais, ben c'est vrai que ça fait bizarre à chaque fois de refaire la même chose, quoi. Qu'il y ait un filtre ou qu'il y ait une manière de sélectionner les candidatures, pourquoi pas. Mais c'est vrai que nous, on est un parti politique qui militons au quotidien, qui faisons de la politique au quotidien, et on pense qu'on a toute légitimité à participer à cette élection-là. Et c'est vrai que on a toujours un tour préliminaire, en fait. Il faut qu'on aille chercher ces parrainages-là, en plus auprès d'élus qui n'ont pas envie de s'emmerder avec cette chose-là, puisqu'en fait ils considèrent, pour la plupart, c'est pas à eux de choisir les candidatures. Donc il faut rappeler quand même que c'est un acte démocratique, c'est pas un acte de soutien politique. Et en fait, ouais, on va voir dans les petites communes parce que c'est là où les personnes sont les plus éloignées des pouvoirs politiques et c'est là où, a priori, on a le plus de chances d'avoir des parrainages. Donc là, on lance toujours cet appel-là auprès des élus. Si vous pensez qu'on est utile au débat politique et si vous pensez qu'on est légitime, n'hésitez pas à nous parrainer.
Alors, utile et légitime, les deux précédentes fois, vous avez fait à peu près 1,2% des voix, c'est-à-dire 400 000 suffrages. C'est quoi l'objectif là pour cette fois?
Ben, on n'a pas vraiment d'objectif chiffré, mais déjà, le fait d'être dans cette élection-là, d'arriver à s'inviter à un endroit où on n'est pas particulièrement invité, c'est déjà une victoire pour nous. Donc on a ce tour préliminaire sur le franchi, c'est déjà important. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est relayer des luttes sociales, des résistances, enfin défendre à la fois un programme, comme on dit, de rupture, un programme anticapitaliste, mais en même temps de défendre des perspectives enfin, autres que celles de se résigner ou de celles de subir une crise telle qu'on l'a subie aujourd'hui. Donc c'est un appel toujours à la résistance, à la lutte, et puis c'est de rendre visible un camp social qui souffre. Enfin voilà, c'est tout ça. Et on pense que c'est pas du luxe dans la campagne qui vient en plus, qui est largement envahie par les idées réactionnaires, racistes ou même fascistes. Donc c'est important qu'on puisse faire entendre autre chose, l'idée qu'il faut combattre ce système capitaliste et puis qu'il faut qu'on s'organise par nous-mêmes, qu'on fasse de la politique, tout ça, le faire entendre et le faire vivre, pour nous c'est assez vital dans la campagne qui vient.
Emmanuel Macron a vanté la semaine dernière dans son allocution ses résultats économiques, les résultats économiques de la France, estimant que la croissance était de retour, que le chômage avait atteint son niveau d'avant-crise. Dominique se disait, les salaires vont probablement augmenter. Il dit aussi que la réindustrialisation de la France est en marche. C'est en tout cas ce que dit le président de la République. Diriez-vous tout de même que le pays a tenu malgré ces deux ans de Covid ?
Non, enfin c'est de pire en pire. Enfin la crise sanitaire, ça a pas inventé la précarité, mais ça l'a amplifié certainement, ça l'a rendu peut-être plus visible. Non, il y a une véritable souffrance. C'est le chômage, c'est les petits boulots, c'est les petits salaires. Même si on nous promet des augmentations, les salaires sont largement en retard. Et donc il y a à la fois un appauvrissement global de la population, une société même qui est globalement de plus en plus violente par plein d'aspects. Et puis de l'autre côté, on voit des richesses qui s'accumulent, des choses complètement indécentes. Les fortunes des milliardaires, les profits, les dividendes, enfin tout ça, on voit que ça explose. Et c'est assez dingue, en plus, en pleine crise sanitaire. Donc, au contraire, il y a toutes les raisons aujourd'hui de se révolter et de voir que, en fait, le capitalisme ou la société actuelle, elle n'est pas capable aujourd'hui de répondre aux besoins des populations. Elle n'est pas capable de permettre à ce que les gens puissent vivre décemment, se soigner, se loger correctement. Donc, le problème, il reste posé, il est d'actualité. C'est ce qu'on va essayer de faire vivre dans la campagne. C'est cette idée de la révolte, quoi. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende. Mmh. Et face au cynisme, face à l'arrogance des plus riches, donc il y a besoin de balayer tout ça, et ça passe par là. Je crois que c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, puisque c'est les 3 ans demain, il me semble. Et en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut un mouvement des Gilets jaunes puissance 10. En fait, il faut à nouveau redescendre dans la rue et puis se battre vraiment. Donc c'est ça l'actualité pour nous.
Sur la réforme de l'assurance chômage, les syndicats qui est entré en vigueur le 1er octobre, les syndicats opposés à ce nouveau mode de calcul jouent leur dernière carte devant le Conseil d'État. Emmanuel Macron assume sa réforme de l'assurance chômage et affirme qu'en cette période où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où les entreprises cherchent de la main-d'œuvre, il est indispensable de rendre la reprise du travail, dit-il, plus attractive que la rémunération du chômage. Qu'est-ce que vous lui répondez sur cette réforme-là ?
Non, mais là, c'est tellement pipeau tout ça que, en fait, ça fait bizarre de dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre alors qu'il y a plus de 3 millions de chômeurs et qu'il y a même aujourd'hui 6 à 7 millions de gens qui travaillent dans la précarité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Non, là, il y a vraiment un problème de répartition des richesses, hein, et un problème pour combattre le chômage, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire le temps de travail. Donc il faudrait travailler 4 jours par semaine, par exemple, 28 heures par semaine, hebdo. Il faudrait que la retraite revienne à 60 ans, même, pourquoi pas, à 55 ans pour les métiers les plus pénibles. Il y a plein de choses à faire.
En fait,
il y a plein
de mesures radicales. Vous prenez la retraite à 60 ans, c'est ça ?
Comment ?
Le retour de la retraite à 60 ans.
Oui, le retour de la retraite à 60 ans. Il y a plein de mesures radicales qu'il faut prendre, mais c'est tout le problème aussi de qui dirige la société, de comment on peut imposer des contraintes réelles au patronat et des limites à sa rapacité et toutes les limites de la course au profit. Donc là, il y a vraiment une bataille politique à mener, mais ça passe par un rapport de force. On voit bien que les gouvernements actuels qui sont au service des plus riches ne le feront pas. Alors après, il y a des phrases, évidemment, parce qu'il y a une misère qui est tellement flagrante qu'il faut à un moment donné dire « Ah oui, tout ne va pas bien ». Mais c'est qu'en fait, en réalité, tout va très mal. Donc c'est pour ça que c'est le problème d'avoir
tout va très mal.
Une politique...
Tout va très mal aujourd'hui en France.
Bah oui, il y a une véritable souffrance. De toute façon, il y a un décalage, parce que c'est vrai que dans les médias, il y a une sorte d'invisibilisation des drames humains vécus aujourd'hui, le mal logement, enfin tout le problème de l'accès à la santé qui est de plus en plus difficile, et puis la crise sanitaire, on voit bien qu'elle révèle aussi tout ça. Donc c'est oui, il y a quelque chose qui est vraiment très grave. Et encore, on est en France, dans un pays riche, hein, parce qu'on pourrait discuter de la situation internationale avec la question des migrants, où on voit enfin les drames humains, la crise climatique. Enfin, si il y a une planète qui va très mal, et donc du coup,
la COP26,
ça pose le problème.
Pour vous, c'est un échec.
Ben c'est pas un échec dans le sens où on attend plus rien de la COP. Ça fait quand même des tas d'années qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, puis il se passe jamais rien. Puis là, on discute sur un mot qui est là, une virgule qui est là. Regardez, il y a un petit truc qui change, qui évolue. En réalité, on voit bien là aussi l'incapacité des gouvernements ou des États à trouver des solutions à la crise climatique. Parce qu'en fait, tant qu'on reste dans le cadre du capitalisme, c'est pas possible. Tant qu'on est dans le productivisme, tant qu'on est dans ces logiques de course au profit, cette logique égoïste, il peut pas y avoir à côté de ça un raisonnement de comment on répond aux besoins des populations.
Sur l'énergie, il y a deux lignes à gauche. Le Parti communiste défend le nucléaire. Les insoumis et les écologistes de l'autre côté veulent en sortir au plus vite. Vous êtes sur quelle ligne?
Nous, on est pour la sortie du nucléaire le plus vite possible. Effectivement, c'est hypocrite de dire que le nucléaire, c'est une énergie qui est plutôt propre par rapport aux énergies fossiles. Nous, on pense qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles, qu'il faut se débarrasser du nucléaire, mais que ça pose aussi le problème de comment on réorganise la société pour faire des pour combattre tous les gaspillages d'énergie.
La situation a dégénéré cette nuit en Guadeloupe. Grève générale contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Deux pompiers grévistes ont été blessés dans des heures avec les gendarmes. Vous comprenez cette grève ?
Ah bah oui, tout à fait. En plus, il y a des tensions qui sont liées aussi à des rapports coloniaux ou néocoloniaux. On voit bien qu'il y a une domination aussi de l'État français sur ces anciennes colonies. Donc il y a tout un esprit de révolte qui est complètement légitime. Mais au-delà de cette révolte
face à la pauvreté,
oui, mais c'est l'autorité de l'État qui est complètement discréditée puis qui est remise en cause à juste titre. Donc après, au-delà de cette colère-là, il y a aussi tout simplement la colère des pauvres contre les riches, parce qu'on est dans un monde où on peut dire qu'il y a une guerre sociale, une guerre de classe qui est menée par les dominants, et on voit qu'ils tout, qui sont prêts à tout pour broyer les populations, les peuples. Et donc, ça ne peut que produire à un moment donné des envies de se révolter. Et il faut se révolter, il faut se battre, il faut s'organiser. Et il faut justement être solidaires les uns et les autres. Et c'est ça qu'on essaie de défendre. Et on pense que la perspective, elle est bien là. Sinon, on se fait ratatiner. De toute façon, le capitalisme aujourd'hui, enfin, tout le monde, même les défenseurs du système, ils voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas et puis qu'on va droit dans le mur. Donc, il faut bien en sortir. Et pour en sortir, il faut bien mettre les problèmes à place, dire qu'est-ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que c'est l'organisation du système qui est complètement aberrante et folle.
Philippe Poutou, vous aviez créé une polémique au mois d'octobre dernier en affirmant « la police tue ». Évidemment, la police tue, il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police chaque année. Bon, ces chiffres sont faux, ils ont été démontrés.
Non, je crois pas.
Gérald Darmanin a annoncé déposer plainte contre vous. Vous maintenez ces propos ?
Ah ben évidemment. Et d'ailleurs, Darmanin, je suis pas sûr qu'il maintienne sa plainte. On n'a toujours pas de nouvelles. Donc on verra bien, parce que c'est facile d'avoir des postures de cador et puis de dire regardez machin. Mais ça montre aussi le problème du débat politique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en campagne électorale. Il y a des candidats qui parlent. Dès qu'on critique la police ou dès qu'on critique la politique de répression du gouvernement, pof, ça se terminerait au tribunal. Donc ça montre aussi l'incapacité de ces gens-là à pouvoir à admettre des critiques et des discussions politiques. Donc oui, on assume évidemment, parce que c'est une réalité. La police tue dans les quartiers populaires, elle a tué, elle défigure.
Vous avez dit une quinzaine de jeunes dans les quartiers populaires. Oui, mais... L'année dernière, il y en a eu deux seulement qui ont été abattus par la police dans les quartiers populaires.
Il y a un article qui est très bien, c'est Bastamac, je fais de la pub, je ne les connais pas, mais ils ont fait un travail très fort. Et puis il y a des tas de sociologues qui ont fait des travaux. Il y a des bouquins à lire. Darmanin, s'il ne sait pas lire, c'est son problème. Mais il y a des tas de choses qui sont écrites, décrites. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y a une violence policière, mais qui n'est pas juste une violence policière. C'est une violence d'État, c'est une violence politique. Il y a aussi un racisme d'État. Et tout ça, ce sont des réalités aujourd'hui. Et c'est là où c'est terrible, c'est qu'en fait, il y a une invisibilisation de tout ça. Et dès qu'on essaie de le montrer, on nous dit qu'on nous attaque au tribunal. Donc enfin,
là, ce que je vous ai donné, c'est des chiffres qui ont été vérifiés en 2020 de jeunes.
Nous, on ne change rien sur nos chiffres.
Vous maintenez, en tout cas.
Très bien. Et puis, par contre, on peut discuter avec Darmanin, mais faisons un débat et discutons réellement chiffre contre chiffre et de la situation réelle. Ce serait plus intéressant que de faire le malin depuis son petit micro et de dire, moi, je porte plainte, voilà.
Donc, du coup, merci Philippe Poutou, c'est fini.
Non, mais comme je ne passe pas tous les jours, j'ai du mal à m'arrêter aussi.
Je comprends bien. Belle journée à vous.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Merci Léa, à tout à l'heure.